selon ce que Paul nous expose dans la première épître aux Corinthiens, à partir du chapitre 12. Je dois répondre à plusieurs défis ce matin, au moins trois. Il y en a d'autres, certainement, mais au moins trois. D'abord, vous parlez avec fidélité et vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est que nos préados sont restés avec nous ce matin. Ils sont en train de, voilà, ils bénéficient d'un enseignement sur la prédication et ils ont chacun une feuille en main. Ils me regardent avec des yeux ronds, des sourcils en forme d'accent circonflexe et ils essaient de comprendre ce que je dis. Et puis troisièmement, notre vaillante Suzanne essaie de me traduire en anglais. Et je salue nos frères et sœurs qui nous viennent de Grande-Bretagne. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. J'espère ne pas aller trop vite et pas être trop compliqué pour que Suzanne puisse vous traduire. Tu me fais aussi, si ça ne va pas, des yeux avec des sourcils en... Voilà. Nous avions vu dans les premiers versets de ce chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens que cette question des réalités spirituelles, de la manifestation spirituelle de Dieu dans l'Église est une question importante. Paul nous révèle dès le début que le diable cherche à les imiter et que nous avons besoin de discerner ce qui vient de Dieu et dit ce qui ne vient pas de lui. Je ne veux pas que vous ignoriez. Paul ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Il nous montre que notre relation à la parole, cette parole, est qui nous permet seule d'éprouver quelles sont les réalités spirituelles authentiques, celles qui viennent de Dieu. Alors, pour nos apprentis, théologien ce matin, j'ai donné comme titre à cette prédication une manifestation trinitaire. Je suis sûr que ça va leur parler, hein. Alors, petite explication. Qu'est-ce qu'une manifestation? La manifestation, c'est l'action de se révéler. Ou autrement dit, c'est une démonstration. Trinitaire, ça fait référence à la doctrine de la Trinité de Dieu. Un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Esprit-Saint. J'espère n'avoir perdu personne déjà. Je vous invite donc à lire dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 6, on est page 236 dans la Bible rouge, et puisque nous avons les jeunes avec nous, est-ce qu'il y en a l'un ou l'une d'entre vous qui souhaite venir nous lire ce passage? Si toutefois, vous avez une Bible. Ah, je vous ai pris à... Pardon, hein. Vous ne pouvez pas tenir et le stylo et la Bible. Simon veut venir? Simon, you're welcome. Tu n'auras pas besoin de traduire.
Combien?
Ah, tu comptes sur ma Bible?
Ah bah oui.
12, 4 à 6. À haute et intelligible.
Alors. Voilà. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, et c'est lui qui met tout cela en action chez tous.
Merci. Alors, vous l'avez remarqué, dans ces versets, Paul fait clairement référence au Dieu unique et trinitaire. Dans quel but? Quelle est la relation avec les dons spirituels? Qu'est-ce que la Trinité a à voir? Alors c'est vrai que quand on parle de dons spirituels, on focalise souvent sur le Saint-Esprit, on parle couramment des dons du Saint-Esprit. Mais nous constatons à la lecture de ces versets que la personne, que la Trinité dans les trois personnes de Dieu, ils sont engagés dans ce domaine. Je vous propose qu'il le fait par la collaboration, par la diversité et par l'unité. Et comme ça, vous avez le plan de la prédication. Collaboration, diversité, unité. Et on commence par la collaboration. Collaboration dans le sens de la participation à une œuvre commune. Actuellement, c'est la Coupe du Monde de rugby. Vous êtes tous au courant, n'est-ce pas? Vous suivez ça avec intérêt. Alors, on est un petit peu moins bon que les Anglais, probablement. On va savoir ça prochainement. Mais en tout cas, la France a joué contre les États-Unis. Elle était victorieuse. Ouh. Alors j'écoutais, moi je suis pas un grand fan de rugby, mais j'entendais ça sur France Info, hein, en circulant dans ma voiture. Et donc j'écoutais le commentateur, hein, qui parlait de ça, et qui disait que les Français ne réussissent pas aussi bien d'espérer contre cette nation réputée faible. Car ils font beaucoup de fautes. Et il l'explique de la manière suivante. Ben comme le groupe a été fortement remanié par le sélectionneur, comme il y avait 80% de petits nouveaux dans l'équipe, ben il n'y a pas d'automatisme entre eux. La collaboration n'est pas bonne. Le groupe ne parvient pas à exploiter les forces et les compétences de chacun, que chacun des sélectionnés apporte à l'équipe. Ils ont quand même fini par gagner, hein. Mais ça veut dire que les États-Unis étaient vraiment pas forts, hein. Alors voyons ce que les personnes de la Trinité apportent dans ces manifestations spirituelles dans un but de collaboration. Le premier mot qui nous est donné est celui de « don » en relation avec le Saint-Esprit. Alors c'est un mot qui était usuel au temps du Nouveau Testament. On utilisait ce mot qui est probablement connu, hein, que chacun connaît sans même être un expert en grec, qui est le mot « charisma ». Et on l'employait pour tout ce qu'on reçoit gratuitement. Don gratuit, charisma. Et dans le texte biblique, un charisma, qui a donné en français « charisme », hein, c'est un don qui est fait par charis. Charis, par grâce. Et donc, un charisma, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. J'en vois qui suivent, c'est nickel. Et l'apôtre Paul utilise plusieurs fois ce mot et de diverses manières dans ses diverses épîtres. Il utilise ce mot charisma pour décrire le pardon des péchés dans Romains 5, 16, 15 et 16. Mais le don gratuit de Dieu, c'est un charisma, le pardon des péchés. Il en parle pour la vie éternelle en Jésus-Christ, en Romains 6, 23. En l'opposant, vous connaissez ce verset, au solde, au salaire que verse le péché. Le solde, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, le charisma de Dieu, c'est la vie éternelle. Il l'utilise évidemment pour les dons spirituels dans un sens général, en Romains chapitre 1, verset 11. Il l'utilise aussi pour la grâce d'être préservé chaque jour des dangers et de la mort dans 2 Corinthiens 1, 11. Il l'utilise pour les dons divers et permanents accordés par Dieu au moment de notre appel, en Romains 11, 29. Il l'utilise pour les dons particuliers à chacun pour vivre, l'un d'une manière, comme célibataire, l'autre d'une autre, comme marié, 1 Corinthiens 7. Et donc, vous êtes célibataire, c'est un don de la grâce que Dieu vous fait. Vous êtes marié, c'est un don de la grâce que Dieu vous fait. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et évidemment, il l'utilise pour les dons spécifiques accordés à chaque croyant en vue du service. Et c'est l'emploi le plus fréquent dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas vous faire la liste, là j'en ai un certain nombre. D'ailleurs, Pierre aussi se joint à cet emploi. Il n'est pas étonnant qu'ailleurs, dans ses épîtres, en Éphésiens, notamment au chapitre 1, verset 7, Paul nous parle de la richesse de la grâce de Dieu. Et cette richesse, ben, elle se voit dans la variété, la richesse des dons qu'il nous fait. Et en constatant cela, on pourrait déjà s'arrêter là pour adorer Dieu, pour le remercier, submergé d'admiration et de reconnaissance pour la richesse de sa grâce et pour l'abondance de ses dons. On peut au moins en tirer une première conséquence. D'après ce que Paul écrit, d'après la Bible, donc inspiré par l'Esprit de Dieu, chaque chrétien, chaque frère, chaque sœur, chaque enfant de Dieu a reçu par le Saint-Esprit plusieurs charismes, plusieurs dons de la grâce, le pardon des péchés, la vie éternelle, le don du célibat ou du mariage, la protection, des dons pour le service, qu'il a la responsabilité d'utiliser pour la gloire de Dieu, ainsi que pour l'édification des frères et sœurs, comme c'est précisé en 1 Corinthiens 12, plus loin, au verset 7. Ailleurs, il nous dit en Colossiens que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur et sous l'inspiration de la grâce. Dans d'autres traductions, c'est inspiré par l'Esprit, sous-entendu par l'Esprit de Dieu. Cette grâce si riche et si surabondante de Dieu nous oblige. Le service trouve sa motivation à la fois dans la compréhension de la grâce de Dieu. Oui, je me laisse entraîner, hein, dans mon... Je vois, Suzanne me fait pitié. Alors, le service trouve sa motivation, d'une part, dans la compréhension de ce qu'est la grâce de Dieu. Et là, on l'a juste courtement décrite, hein. On l'a juste courtement évoquée. Mais elle trouve aussi sa motivation dans la perspective du retour de Jésus. Et on sait qu'au jour du Seigneur, au retour de Jésus-Christ, chaque homme, chaque femme aura à rendre compte de ce qu'il aura fait de la grâce de Dieu. Pas de ce qu'il aura fait de bien, de mal, mais de la grâce de Dieu. Est-ce que cette grâce, tu l'as reçue ou pas? Alors, dans Romains 2, Paul dit, et toi, et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de, désolé, hein, Suzanne, c'est le texte biblique, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Comment échappons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ça, c'est pour ceux qui refusent la grâce. Paul parle ici aux non-croyants concernant leur salut. Mais cette idée, elle est valable aussi pour les croyants qui méprisent ou qui négligent le don de la grâce qu'ils ont reçu. C'est pourquoi Paul donne ce conseil à Timothée. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, celui que Dieu t'a donné et qu'il a mis en toi par son Esprit Saint. Et Jésus rejoint aussi cet enseignement, notamment dans les paraboles des mines et des talents, où chacun doit rendre compte de ce qu'il a reçu. Alors, ne méprise pas, ne néglige pas le don que Dieu t'a donné, afin que tu le glorifies et que tu édifies l'Église par le don qui t'a été confié. Le deuxième mot est celui de service. Et il est remarquable de constater que le service est mis en relation par Paul avec Jésus-Christ glorifié. Il y a plusieurs services, mais un seul, Seigneur. Qui est le Seigneur? C'est Jésus-Christ glorifié. Le ministère que Jésus-Christ a eu est décrit dans le livre d'Ésaïe, dans ce qu'on appelle communément les chants du serviteur. Je vais vous en lire quelques extraits. Ésaïe 42. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 49. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit assemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux de l'Éternel car mon Dieu a été ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 50, verset 10. Qui parmi vous craint l'Éternel en écoutant la voix de son serviteur? Quiconque marche dans les ténèbres et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Et enfin, Ésaïe 52, voici mon serviteur. Il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Et enfin, Ésaïe 53, après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de ses fautes. Et voilà pourquoi le service est en relation avec Jésus-Christ. Et on constate par ces annonces du prophète Ésaïe que Jésus est venu accomplir son ministère dans l'humilité, dès sa naissance. Serviteur des hommes, il les a guéris, il les a nourris, il les a délivrés du pouvoir du diable, il les a rendus à la vie, il a porté leurs péchés en faisant pour eux l'expiation sur la croix. Il a été aussi serviteur de Dieu, il a apporté le salut de Dieu aux nations par sa mort. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité et il l'a élevé à la gloire suprême. Et c'est à cet exemple de Jésus-Christ que nous sommes appelés serviteurs de Dieu, serviteurs de nos frères et de nos sœurs. Car ce service que Jésus-Christ a accompli alors qu'il était sur terre, il continue à l'accomplir aujourd'hui au travers de son corps qu'est l'Église et dont nous sommes les membres. Et nous sommes appelés à être des membres actifs. Alors ce service, je voudrais vous rassurer, ce n'est pas une œuvre servile. On a une compréhension servile du mot serviteur. Hein. Quand on parle de serviteur, on pense à quoi on pense? L'arbin. Ouais, c'est ça. Le serviteur, c'est l'arbin. C'est celui qui est, voilà, c'est, hein? Mais voici un autre sens du mot serviteur. Celui qui engage toute son activité, son énergie, sa passion au service d'un idéal, d'une noble cause ou d'une œuvre. C'est une des définitions du mot serviteur. Alors ce service n'est pas servile. Mais c'est une œuvre glorieuse, parce que c'est l'œuvre de Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur glorieux. C'est l'œuvre qu'il veut accomplir au travers de nous. Et le dernier mot, le dernier des trois mots qui est utilisé en relation avec les personnes de la Trinité, c'est le mot « opération ». Alors ça, ce n'est pas « opération chirurgicale », hein. On peut le traduire aussi par « acte », par « activité », par réalisation. Et ce mot qui est utilisé là pour opération a donné en français le mot énergie. Donc on voit que c'est assez énergique, hein. Alors Paul met ce mot, cette action, ces opérations en relation avec la personne du Père. Et on ne peut pas ne pas faire le lien avec l'acte créateur de Dieu, et plus particulièrement avec l'insufflation de la vie dans les êtres vivants. Alors on retrouve ça en Genèse 2:7, mais vous le trouvez aussi dans Actes 17:25. Elle est perdue. Insufflation. Souffler. Alors je répète la phrase. Quand on parle des opérations de Dieu, hein, de ses réalisations, de son activité, de l'énergie qu'il a déployée. On est amené à faire le lien avec l'acte de création de Dieu. C'est bon? Donc, avec l'acte de création de Dieu, et plus particulièrement avec le fait qu'il a insufflé la vie dans les êtres vivants, dans l'être humain, les êtres vivants. Laisse tomber. D'accord. Alors, rassurez-moi les jeunes, ça va? Vous suivez ou... Ça va? Alors, on parle de l'opération de Dieu, de son acte créateur. De son acte créateur. Et après que Dieu ait tout créé, hein, si vous lisez le début de la Bible, Genèse 1, la création, on voit qu'après avoir tout créé par sa parole... Dieu, il a formé l'homme et il lui a donné la vie par son souffle. Il lui a insufflé. Insufflé, c'est juste l'action de souffler dans. Hein. Il lui a insufflé la vie, il lui a donné la vie. Et c'est l'apothéose de l'acte de la création. Dieu fait don de la vie. C'est Dieu qui donne son souffle. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne l'énergie. C'est Dieu qui donne la puissance pour que nos activités à son service produisent à leur tour la vie. C'est cela. La vie que Dieu veut répandre, c'est la vie que Dieu veut communiquer par le don et le service qu'il nous convie. La vie dans l'Église, la vie pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et voilà comment Paul nous dévoile la collaboration qui existe entre les personnes de la Trinité dans les manifestations spirituelles en faveur de l'Église et en faveur du monde. Ça, c'était pour la collaboration. Je vais être plus bref, hein, pour la diversité et pour l'unité. Et donc, ce deuxième point, vous pouvez mettre un 2, diversité. On est forcé de constater la diversité qui existe dans la Trinité, où chacune des personnes s'exprime et agit à sa manière. Et cette diversité de Dieu, ben, on la constate dans la création. Ou pas? Ouais. Elle a cela de magnifique, la création. On constate la diversité dans les climats, dans les paysages, dans les horizons, les animaux, les végétaux, les minéraux même. Et tout ça, ça donne lieu à une classification qui est complexe. Je devrais donner la parole à Célia. Non, ça ira? Ça nous embêterait. On peut parler de la diversité des formes, des couleurs, la diversité des humains dans leur physique, leur psychologie, dans le domaine intellectuel, culturel, social, artistique. Et vous avez remarqué, si vous panachez tout ça, ça donne des combinaisons qui peuvent être infinies. Et donc, il n'est pas étonnant que Dieu se manifeste dans l'Église de manière diversifiée, en donnant des dons, des ministères, des activités variées et différentes. C'est pourquoi Paul peut dire en Éphésiens 3:10 que c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il peut s'exprimer dans l'Église dans toute la diversité. Alors on doit constater que malheureusement, l'homme, il est rapide et il est habile à pervertir ce que Dieu donne. Et pourtant c'est si beau. Même nous les croyants, hein, nous sommes confrontés à ce danger. Regardons autour de nous. Comme la diversité de Dieu est utilisée à des fins d'exclusion. C'est de plus en plus fort, n'est-ce pas, dans notre société? C'est une voix qu'on entend de plus en plus fort. Ça peut commencer dès la cour de récréation de l'école maternelle. Celui-là, il n'est pas comme nous. J'ai un frère, il s'appelle Thomas. Quand il a fini ses études, il a déménagé de notre belle Alsace natale pour s'expatrier ô combien loin dans le territoire de Belfort qui est juste à côté. Il est entré en France. Il a trouvé un travail là-bas. Pour lui, ça s'est assez bien passé, mais il a mis ses enfants à l'école, notamment son aîné Timothée à l'école maternelle. Et personne, mais alors absolument personne, ne voulait jouer avec cet étranger. L'institutrice, émue par ce petit Timothée qui était abandonné dans la cour, a voulu rapprocher de lui un autre garçon qui jouait avec personne. Elle est allée vers lui, elle lui a dit, « Tu es tout seul, toi tu veux pas aller jouer avec Timothée, il est tout seul aussi. » Et le petit garçon doit lui répondre, « Non, je veux pas jouer avec lui, il sent la vache. » Sachez que dans le territoire de Belfort, les Alsaciens sentent la vache. C'est amusant, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ça se répète à l'infini, dans tous les domaines de la société, dans tous les lieux et dans toutes les cultures. Il venait juste de la ville d'à côté, hein? Il y a quelques dizaines de kilomètres entre Mulhouse et Belfort, hein? Mais une rivalité ancestrale. Mes amis, il n'en faut pas qu'il en soit ainsi dans l'Église. Personne sans la vache dans l'Église. La diversité est le signe de la richesse de Dieu pour son Église. Elle est simplement le reflet de la diversité de la Trinité. Il n'est donc pas étonnant que le frère ou la sœur qui est assis à côté de toi, ou devant, ou derrière, ou proche de toi, ben qu'il soit différent de toi. Il n'est pas étonnant non plus que l'église d'à côté, celle qui est un petit peu plus loin dans la rue ou dans la ville, ben elle soit différente de la nôtre. Cette diversité, elle est voulue par Dieu. Elle est créée par Dieu. Elle est intentionnelle. Elle est pour nous une source de richesse, une source d'abondance. Et enfin, l'unité. L'unité de la Trinité, elle est verbalisée dans le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Et elle est reprise dans le Nouveau Testament. Il n'y a qu'un seul Dieu. Cette unité, elle a existé dès avant la fondation du monde entre les personnes de la Trinité, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Lorsqu'ils ont décidé, qu'ils ont mis au point le plan de salut des hommes. C'est pourquoi, dans cette unité, ou à cause de cette unité, nous sommes appelés à former un seul corps en Christ et à ne pas nous diviser, en particulier autour de cette question des dons, comme les Corinthiens, hélas, ont si bien su le faire. Colossiens 3:15, et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Comme ce modèle d'unité existe en Dieu, L'unité n'est pas à créer dans l'Église, mais à conserver. Nous avons un même Dieu et Père, un même Seigneur et Sauveur en Jésus-Christ, et nous sommes animés par un même esprit, l'Esprit de Dieu. En conclusion, ce que Paul recherche donc, c'est de nous montrer qu'au travers du fonctionnement harmonieux de la Trinité, des trois personnes de Dieu, l'exemple, il veut nous montrer l'exemple ou un exemple harmonieux pour le fonctionnement de l'Église, la collaboration, la diversité, l'unité. C'est ambitieux, mais c'est possible. Si nous gardons à l'esprit la valeur inestimable des dons de la grâce de Dieu, l'exemple de service donné par Jésus-Christ, la volonté de Dieu de se servir de chacun d'entre nous pour répandre par son esprit sa vie dans l'Église, sa vie tout autour de l'Église, autour de chacun d'entre nous. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Seigneur, qu'un seul Saint-Esprit. Ce seul Dieu utilise différentes personnes avec différents dons, de différentes manières. Dans l'Église locale, chacun a donc au moins un don et une responsabilité. Alors à la lumière de ce que Paul nous explique ici, si Dieu est ton Père, si Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Seigneur, si l'Esprit-Saint a fait sa demeure en toi, tu ne peux pas rester inactif. Tu ne peux pas rester là à rien faire. Tu es appelé à manifester à ton tour la vie de Dieu dans l'Église et dans ce monde. Alors peut-être tu ne sais pas comment faire. Alors on a réfléchi à ça au niveau du conseil et on a préparé pour toi un questionnaire qui peut t'aider à déterminer quels sont tes dons. Et alors viens simplement me voir, je te remets ce questionnaire et je t'explique comment l'utiliser. Mais de grâce, ne reste pas là à rien faire. Tu sais, Dieu n'aime ni l'attitude de négligence, ni l'attitude de mépris avec les dons de sa grâce. Je ne veux pas que vous ignoriez. C'est une question tellement importante. Il t'appelle aujourd'hui à te joindre en collaborant dans la diversité et l'unité à la manifestation de sa vie et de sa gloire dans l'Église. Je vous propose qu'on chante ensemble « Tu es venu jusqu'à nous ».